Vous écoutez RTL.
Denis Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Avec les gens de mon village, j'ai appris qu'on pouvait construire nos rêves ensemble à notre image et dessiner notre avenir.
Bonsoir, joli clocher, clocher de mon village.
La curiosité n'est vraiment pas un vilain défaut.
On s'est aimé un jour dans mon village. On s'est quitté pour un petit nuage.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Sur RTL. Comme Nana Mouskouri, Michel Etcheverry ou Yves Duteil, qu'est-ce qu'on les aime, nos villages? Et vous croyez bien les connaître, mais vous avez tort, car ils recèlent encore des mystères, des secrets, des énigmes que l'on va vous raconter ce soir grâce au magazine Ça m'intéresse, c'est en partenariat avec RTL. Et forcément, on reçoit Cyrielle Lemoine-Tolba. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous allez bien ? Cyrielle. L'une des grandes énigmes que vous racontez, qui est passionnante, c'est celle du château de Rastignac. Allez, vous nous situez un petit peu le décor. Elle se trouve dans quelle région ?
Elle se trouve en Dordogne, à peu près à 200 km de Bordeaux. Et c'est un château qui est très classique, avec une longue façade, au centre, six colonnes néoclassiques.
Blanc, marron.
Blanc, voilà, une pierre immaculée, et une rotonde au milieu.
Alors, donc ça, c'est son look. C'est marrant, il nous fait penser un petit peu à quelque chose comme ça.
Exactement. C'est le sosie de la Maison Blanche à Washington, tout simplement.
Oui, aussi simple que ça. Et est-ce qu'il y a un lien entre ce village-là de... C'est quoi ? C'est la Bachellerie ?
Ouais.
C'est le nom du village ?
Exactement,
du
en Dordogne. En Dordogne, oui.
Et il y a un lien entre ce village, la Bachellerie, et... La capitale américaine. Et
figurez-vous que ça fait 200 ans qu'on se pose la question, puisque la ressemblance est troublante. Ouais. Et la question est très difficile à trancher. Si on remonte aux origines de cette histoire, tout commence en 1789. Donc ça fait 13 ans que les États-Unis sont indépendants. Mm-hmm. Ils envoient des ambassadeurs en Europe, dont Thomas Jefferson, qui est ambassadeur à Paris. Et Thomas Jefferson, il est féru de culture et il parcourt la France pour à la recherche des plus belles réalisations architecturales des 17e et 18e siècles. Et donc, il va tomber à Bordeaux sur des croquis, parce que le château n'existe pas encore, le château de Rastignac et la Bachellerie. Il va tomber sur des croquis de ce château-là. Mmh. Et il va, en tout cas, les connaître et les découvrir. On ne sait pas ce qu'il en fait exactement. En tout cas, il se trouve que quelques années plus tard, en 1792, donc 3 ans plus tard, la Maison Blanche à Washington commence à être construite.
Mais alors, on se dit que du coup, on n'arrive pas trop à savoir qui a inspiré qui. C'est sur ça que les historiens se battent, c'est-à-dire...
Oui, parce qu'en fait, à l'époque, ce ne sont encore que des croquis. En France, donc c'est la période révolutionnaire, le château n'est pas construit. La construction débutera bien plus tard, au 19e siècle, en 1811. Et donc
la primeur est américaine, est sûr.
Oui,
mais les plans ont peut-être été dessinés en France, c'est
on
ça ?
On peut en tout cas le croire.
Ouais.
Et ces historiens sont en pleine querelle depuis 200 ans. Est-ce qu'il y a vraiment deux théories très fortes qui s'affrontent ?
Bah oui, deux théories qui disent que non, c'est une coïncidence complète. Et puis de toute façon, c'était dans l'air du temps. On est dans un style assez classique. Et puis d'autres, bon, on a envie d'être chauvin quand même et de se dire que Cocorico, on a bien inspiré les Américains.
Et si vous regardez la photo qu'il y a dans le Ça m'intéresse, vous dites quoi ? Qu'en effet, ça a pu inspirer la Maison Blanche. C'est vrai que on appelle ça la rotonde, c'est
exactement.
Ça ?
Exactement.
L'arrondi au centre avec les 6 colonnes.
Oui, on imagine Donald Trump à Rastignac, pareil.
Sortant avec Mélania, hyper bien habillée. Mais...
Bon, il manque l'aile ouest, il manque l'aile est. C'est un peu moins vaste que la Maison Blanche.
Est-ce que c'est une architecture qu'on trouve par ailleurs en France, cette architecture du château de Rastignac ?
Oui, c'est assez classique, finalement. Mais bon, c'est assez classique, mais très troublant, parce que dans le classicisme, on a quand même là le croquis qu'on peut retrouver à cette école de Bordeaux, qui est confondant. Quoi. On est vraiment sur...
Est-ce qu'aujourd'hui, pour boucler sur cette histoire, on continue de chercher qui de l'œuf ou la poule a commencé ?
Oui, mais je pense qu'on ne tranchera jamais, à moins qu'un super document émerge des archives de Thomas Jefferson. Pour l'instant, ça n'est pas le cas.
C'est-à-dire un croquis copié de sa main avec sa signature. Allez, dans ce numéro de Ça m'intéresse Histoire, en partenariat avec RTL, il y a 26 énigmes des villages de France, sanctuaires secrets, traditions étranges, chercheurs de trésors, folies architecturales. Voilà pour le titre. Donc des histoires, on en a encore beaucoup d'autres à découvrir avec vous. Tiens, une autre surprise, un autre secret. On est en Côte d'Or. Qu'a-t-on découvert là-bas à Vix ? si c'est la prononciation, en 1953.
Alors, en 1953, deux archéologues font des fouilles et découvrent au pied du Mont La Soie, donc en pleine Bourgogne, une sépulture extraordinaire avec un cratère, donc un énorme vase qui fait plus de 200 kilos, qui fait 1,65 m. Et sur ce cratère, on va trouver des soldats grecs qui sont sculptés, un style très qui fait référence à l'Italie du Sud. On est en pleine Bourgogne. Hein. On va trouver 25 vases précieux, un torque, donc c'est un bijou en or qui fait près de 500 grammes.
On appelle ça comment, hein ?
Un torque.
Un torque.
Voilà, ça,
d'accord.
C'est un bijou typique des Celtes, des Gaulois, donc qui se portait autour du cou. Et un immense, donc cet immense récipient en bronze. Et surtout, on va trouver le cadavre d'une personne allongée sur un char.
Ah, pourquoi c'est étonnant ? Pourquoi cette découverte ? D'ailleurs, qui est cette personne ?
Bah, cette personne, tout de suite, comme il n'y a pas d'armes associées à ce cadavre-là, l'un des archéologues, René Jouffroy, à l'époque, va émettre l'hypothèse que c'est une femme. Et que donc, il y a 2500 ans, c'est l'époque de la tombe, une femme régnait, ou en tout cas avait un pouvoir extraordinaire et un immense prestige, au point d'être enterrée comme un chef celte.
Ça étonne, parce que chez les Celtes, on n'avait pas des femmes.
À l'époque, c'est impensable. En 1950, quand même, 1953. Donc, on se dit que dans une société aussi virile, les Celtes, les Gaulois, non, ils n'ont sûrement pas...
Ça devait être une courtisane.
Oui, justement, si c'était une courtisane, elle n'aurait même pas eu de... Non, c'est sûrement un homme, en fait. On s'est trompé, tout simplement.
Et le doute est levé à quelle époque et comment, sur
alors,
l'identité de cette femme ?
Dans les années 80, on va avoir recours à des analyses plus poussées, plus scientifiques. On va analyser les ossements. Et là, on a la confirmation qu'il s'agit bien d'une femme. Et donc, une princesse celte, la princesse de Vix. Et en fait, si on regarde un peu l'endroit où est situé le Mont La Soie, donc en Bourgogne, il est situé, c'est une étape du parcours de l'Étain qui allait des Cornouailles anglaises et qui aboutissait à l'Italie du Sud. Et donc l'Étain, c'est un métal très intéressant puisque ça permet de fabriquer le bronze, donc les armes et des bijoux. Donc en fait, cette femme-là, si elle avait un cratère de 200 kilos dans sa tombe, c'est parce qu'elle avait des liens avec le monde grec et sicilien et qu'elle recevait des cadeaux très prestigieux de personnes aussi lointaine.
Dans un instant, sur RTL, on se lance dans une chasse au trésor à Jumières, en Seine-Maritime. Si vous aussi, d'ailleurs, vous avez des histoires, des énigmes de vos villages, n'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil au 3210 ou bien si vous avez Internet ou un ordinateur sur rtl.fr.
Maison Blanche dans le Périgord, un trésor enfoui dans la Seine, un ours féroce dans les Pyrénées. On vous fait découvrir les énigmes de nos villages dans la curiosité avec Cyrielle Lemoyne-Tolba du magazine Ça m'intéresse Histoire. Alors une nouvelle énigme pour cette nouvelle séquence, une énigme qui fascine encore aujourd'hui Cyrielle, les chercheurs de trésors. Elle plane cette énigme autour d'Agnès Sorel. Il faut la présenter d'abord. Qui est-elle ?
Alors Agnès Sorel, c'est une beauté au XVe siècle qui est la favorite du roi Charles VII et qui est d'ailleurs la première maîtresse officielle d'un roi en France. Et donc c'est une femme qui a été beaucoup représentée. Elle était blond cendré, elle avait la peau claire. On dit que elle faisait tous les jours des bains de lait d'ânesse pour garder sa jeunesse. Et donc elle avait le front épilé à la mode de l'époque, c'était vraiment un canon.
Fashion victim, quoi. Elle aurait fait la une de tous les magazines.
Elle portait des décolletés plongeants, donc oui, je pense qu'elle ferait de l'ombre à Kim Kardashian.
Ah oui, quand même.
Mais peut-être un peu plus classe que lui. Est-il arrivé le 9 février 1450 ?
Alors, à ce moment-là, elle a 28 ans, elle est enceinte de son quatrième enfant, du roi Charles VII, et elle va se reposer en Normandie, au manoir de la Vigne, au Ménil-sous-Jumièges. Et en fait, elle est prise de contraction. Et elle va accoucher d'une enfant, elle n'est pas du tout au terme de sa grossesse et elle va mourir en accouchant.
Est-ce que c'est une mort naturelle ou une mort qui a été provoquée ? Est-ce qu'on pense à un empoisonnement, par exemple ?
Tout de suite, oui, vu que ce n'était pas du tout le terme de la grossesse et puis qu'on est quand même dans des périodes un peu... et que c'est une favorite du roi, oui, on va penser directement à l'empoisonnement.
Qui aurait pu vouloir sa mort ?
Elle faisait des jaloux, des rivaux. Elle avait notamment sa propre cousine qui aurait bien voulu atterrir dans le lit du roi. Donc oui, le doute était permis.
Alors, elle meurt. mais cette femme, Agnès Sorel, était riche, elle était belle, elle était parée de 1000 bijoux, et il y a tout un mystère autour, justement, d'une cassette de bijoux.
Exactement, parce que cette cassette de bijoux, on ne la retrouve pas. On ne l'a toujours pas retrouvée, d'ailleurs. Donc, on se dit qu'elle aurait enfoui sa cassette quelque part dans le château où elle est morte, donc avant de mourir. Donc, on peut imaginer qu'elle a eu l'idée de saugrenue, de dire « Tiens, je vais cacher ma cassette. » Ou alors même dans un souterrain qui relierait le château à l'abbaye de Jumièges. Donc, de plusieurs kilomètres.
Oui, ou alors elle se sentait menacée, elle aurait peut-être confié ses bijoux à quelqu'un. Vous disiez qu'on ne les a toujours pas retrouvés, ça veut dire que tes chercheurs de trésors continuent d'espérer trouver la cassette.
Ça donne envie, puisque femme-là, on sait qu'elle était couverte de bijoux, que pour elle, le roi avait fait tailler les premiers diamants jamais portés à la cour de France. Rien qu'en l'année 1444, elle avait reçu pour 27 000 écus d'or et de bijoux, donc elle était vraiment richissime. Oui, ça donne envie.
Alors, il faut chercher dans quel coin exactement?
C'est en Normandie, Ménil-sous-Jumièges. Donc il y a une très belle abbaye d'ailleurs en ruine. C'est plutôt chouette.
Ouais. Et alors,
c'est une belle balade.
Déjà, c'est une belle balade.
Même si on ne trouve pas le trésor, c'est une belle balade. Et les gens qui, les historiens, les conservateurs des sites historiques de cette région, pensent-ils que ce trésor, que ces bijoux existent toujours?
C'est histoire qu'on s'y mette ou pas, quoi. Voilà.
On va peut-être avoir 2-3 jours, donc on veut bien partir.
Il y a les ponts, faut peut-être y aller.
Voilà.
Bah alors, réfléchissez avant de prendre le détecteur de métaux, parce que selon les conservateurs de là-bas, c'est complètement, c'est de la pure, du pur fantasme. Puisqu'on se demande bien pourquoi elle aurait apporté sa cassette de bijoux. Vous imaginez des milliers d'écus avec elle pour aller dans un manoir assez rustique. Surtout qu'elle était entourée seulement de 4 hommes de confiance et qu'elle était très loin de la cour. Donc, a priori, il n'y avait pas de soirée prévue. Donc, pour le conservateur de l'endroit, aucun espoir... n'est possible.
Mais on aurait fait quoi de ces bijoux? Alors, ils auraient été vendus à sa mort?
Probablement. En fait, le plus logique, c'est que son exécuteur testamentaire, qui a été Jacques Coeur, un des financiers du royaume, aurait vendu sa fortune et elle aurait fait des legs à l'abbaye de Jumièges, justement. Et aussi, cette fortune-là aurait servi à l'éducation de ses 3 filles, qui ont été d'ailleurs légitimées par le roi.
Alors, notre prochaine énigme se déroule, elle aussi, dans un village de Seine-Maritime. Décidément, vous avez de la chance si vous habitez là-bas, au stade de Quibeuf. Qu'a-t-on longtemps affirmé à propos de ce stade?
Alors, ce stade, donc c'est un stade de foot. On dit que sous ce stade serait caché le trésor, une partie du trésor des rois de France.
Rien c'est ça. Pas rien, mais c'est quoi le trésor des rois de France?
Alors, le trésor des rois de France, ça correspond. Il faut que je remonte encore, on remonte encore.
Allez,
le temps.
Remonte.
Là, on est en 1790. Et donc, un voilier quitte Paris, le Télémaque, et va remonter la Seine et va faire escale. Il part de Normandie. Il va faire une escale à Quillebeuf. Et là, ce voilier, officiellement, le Télémaque, il contient des tonneaux de suif et du bois de construction. Ce voilier, il va sombrer. Donc, il disparaît complètement. Mais quelque temps après, le ministre de la Marine en personne va venir sur place pour essayer de renflouer le navire. C'est bizarre quand même.
Oui, un notable.
S'il y a juste
des tonneaux de suif, c'est un peu beaucoup, quoi. Donc, il va rien trouver, mais très vite, la rumeur va être déclenchée qu'il y a peut-être quelque chose de beaucoup plus précieux.
C'est-à-dire le trésor des rois de France qui chercherait à échapper à la Révolution, c'est
1790,
ça, en
1790, complètement.
Et il y aurait quoi dans ce trésor, là,
alors,
des rois de France?
Alors, selon différentes rumeurs, ce serait un trésor de 2,5 millions de louis d'or, donc c'est un joli paquet d'or. Il y a différentes estimations qui circulent, et c'est surtout que, effectivement, à l'époque, pas seulement le roi de France, mais les nobles en général cherchaient à cacher leurs biens en Angleterre ou en Hollande. Donc, effectivement, on est sur un lieu de passage vers l'Angleterre, pourquoi pas.
Bon, dans un instant, après les informations, on va raconter d'autres légendes, celle d'un ours féroce dans un village, le village de Saint-Laurent de Cerdan dans les Pyrénées. Mais que s'est-il passé? Vous le saurez après les infos.
Et puis dans notre seconde heure de curiosité, on se pose une question toute simple. C'était quand la belle époque? Oui, mais on connaît tous ce mot, mais on n'a peut-être pas forcément la réponse précise. Ben, on va vous la donner tout à l'heure. Et puis, pourquoi cette belle époque est-elle devenue un symbole, le symbole de la nostalgie à la française? Réponse tout à l'heure vers 21h20 sur RTL.
RTL, il est 21h.
L'heure de retrouver votre duo favori, Thomas Sidoni.
Merci Julien.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure. Bonsoir. Vous y serez avec Agnès Bonfillon et Christophe Pacaud.
RTL.
Jusqu'à 22h,
la curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bienvenue chez vous les curieux, on en a encore pour une heure d'histoire, de destin, d'anecdotes, de secrets. On se passionne pour tout dans la curiosité, on n'a pas de limite. D'ailleurs, il faut nous arrêter à 22h, il faut nous mettre hors du studio.
Voilà, c'est ça, parce que surtout qu'on a une machine à voyager dans le temps, et donc là, on l'a réglé sur la fin du 19e
siècle. Vous conduisez un peu vite, Thomas,
oui,
je voulais quand même vous
vrai,
dire, parce que j'ai peur parfois, je m'accroche.
C'est parce que je la maîtrise bien maintenant, c'est la troisième saison, c'est pour ça. La fin du 19e siècle, l'exposition universelle qui se prépare à Paris, l'affaire Dreyfus qui se termine, c'est le début de ce que l'on va appeler la belle époque. On va revivre ces années synonymes d'insouciance, d'audace, d'innovation.
On continue tout de suite de vous raconter les secrets de vos villages français.
RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Et voilà, la merveilleuse fosse d'Yonne avec ses eaux, le thé et l'antide.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Une jeune fille rentrait de son travail le soir et tout à coup, une main l'a saisie.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
C'était le diable.
Curieuse, curieux.
Quand elle a vu que le diable était après elle, elle ne savait plus comment faire, donc elle a choisi de se jeter dans la fosse d'Yonne.
Vous êtes chez vous sur RTL.
Des trésors et des énigmes, on vous invite.
De l'eau bleue.
De l'eau bleue qui jaillit d'un puits grâce au manteau d'une vierge. On vous invite à un tour de France de nos villages à la découverte de tous les secrets, de tous leurs secrets avec la journaliste Cyrielle Lemoyne-Tolba du magazine Ça m'intéresse histoire. Bah, c'est vrai qu'avec votre magazine, on partage plusieurs points communs, dont la curiosité. On raconte avec vous cette histoire du trésor de Quillebeuf. On est en Seine-Maritime. Et c'est en fait, on est à la recherche du trésor des rois de France. Est-ce que finalement, il a été trouvé, ce trésor ?
Alors, donc, on est parti en 1790. On fait un bond dans le temps d'une cinquantaine d'années. On arrive en 1842. Là, un Anglais qui s'appelle Taylor dit que la cale du Télémaque, donc le fameux navire qui a sombré à Quillebeuf, renferme entre 30 et 80 millions de francs en or et en diamants.
Ça vaut le coup.
Ça vaut le coup. Donc
il
lance
ça à partir de quoi ? Il dit ça
de ses propres estimations. D'accord. A priori, on va découvrir après pourquoi, vous comprendrez. Ouais. Il va lancer une souscription pour financer des recherches. Et il va avoir beaucoup de succès, puisque ça attise la curiosité. Et en fait, tout simplement, il va partir avec la cassette, lui aussi, avec la cagnotte. Et donc,
c'est le système de Ponzi, en fait, du célèbre Madoff.
Complètement.
Oui, ou les avions renifleurs de l'époque, vous voyez, voilà. Une bonne arnaque.
Exactement.
C'était le trésor du roi Taylor, voilà, mais pas des rois de France en tout cas.
Bon, donc ça c'est 1842.
Voilà. C'est plié.
Donc on n'a toujours rien trouvé. Est-ce qu'on va continuer de chercher quand même,
et
peut-être
oui,
un peu plus tard
100
dans le temps.
Ans plus tard, en 1939, des archéologues un peu plus, enfin des fouilleurs un peu plus sérieux vont se mettre, donc il faut savoir que ce stade de foot de Quillebeuf, il est bâti sur un polder qui est bâti sur la Seine. Donc effectivement, il y avait la Seine qui passait là autrefois. Mmh. Et donc ils vont faire des fouilles pour tenter de renflouer le Télémaque. Et on a des photos, effectivement. On a retrouvé le bateau, on a retrouvé des tonneaux de suif, les fameux tonneaux de suif dont on parlait. Et on a retrouvé aussi une caisse remplie de pièces d'or. Donc pas 30 millions de francs or, mais on a une première découverte prometteuse. Sauf qu'on est en 39, la guerre éclate. Et donc, les fouilles sont arrêtées. Là-dessus, en 1984, un Hollandais...
Mais attendez, pardon Cyrielle, mais il y a toujours un stade de foot, là.
Oui,
ça joue toujours. Il y a une équipe à Quillebeuf qui réussit à jouer.
Il
doit y avoir des trous gigantesques.
C'est assez impressionnant.
Oui.
Donc, je ne sais pas ce qui se passera ce week-end. Peut-être qu'il y aura un peu de surprise à Quillebeuf.
Oui, parce qu'après nous avoir écouté, évidemment, sur RTL, tout le monde va aller à Quillebeuf chercher le trésor des rois de France.
Il n'est pas là, a priori.
Donc là, on est maintenant dans les années 84.
Et donc là, cette fois-ci, c'est un Hollandais. Donc il y avait un Anglais, maintenant un Hollandais, qui cherche à se lancer dans des fouilles. Et puis, en fait, il va être refroidi parce qu'il apprend qu'en France, selon la loi, si vous découvrez un trésor, il appartient à l'État, il revient à l'État. Surtout un trésor de cette ampleur-là. Donc, il est refroidi et il ne fait pas de fouilles.
Et aujourd'hui, est-ce que on cherche encore ce trésor, vous le savez ?
Je ne crois pas, mais
il y a des gens qui partent
bientôt.
Là tout de suite. Annuler tous les matchs du week-end à Quillebeuf.
Voilà. Bon, c'est probablement pas celui des rois de France, mais on peut toujours rêver, quoi.
Bon, allez, une autre histoire maintenant, Cyrielle, qui est toujours dans le magazine Ça m'intéresse histoire en partenariat avec RTL, celle de l'ours de Saint-Laurent de Cerdan dans les Pyrénées. L'ours féroce. forcément. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce village? On est dans les montagnes pyrénéennes, chaque année au début du mois de février.
Alors, au début du mois de février, c'est la fin de... On est à la fin de l'hiver, les ours se réveillent. Et chaque année, un ours arrive dans le village, il a faim. Il a faim de jeunes filles, puisqu'il est, il se balade dans les ruelles de village en quête de proies. Et ça tombe bien, puisqu'en général, les vieillards du village lui ont préparé, lui ont capturé des proies, donc des jeunes filles. Sous la jupe de ces jeunes filles, il passe une bassinoire, donc c'est une bassine dont le couvercle a été est trouvé. Et en fait, on y brûle du poil de cochon. C'est très glamour, voilà. Et donc l'idée, c'est d'attirer l'ours. Eh bien, ça marche, l'ours arrive, et en général, les jeunes villageois s'accaparent l'ours, le capturent et le traînent, l'exhibent dans les ruelles du village.
Alors là, on n'est pas en 2017,
on est en 2017, et ça fait plus de 600 ans que ça dure, cette histoire.
Sauf que ce n'est pas un vrai ours.
C'est pas un vrai ours, évidemment. C'est un jeune du village qui a revêtu une fourrure d'ours.
Qu'est-ce qu'elle raconte, cette fête de l'ours? Qu'est-ce qu'elle symbolise? Pourquoi elle est si importante pour être jouée comme ça et fêtée et recréée depuis 600 ans?
Oui, puis surtout, elle est classée patrimoine immatériel à l'UNESCO, donc c'est vraiment important. En fait, le plus ancien texte qui parle de cette fête date de 1400, du 15e siècle, et ce serait l'équivalent païen de la Chandeleur. Donc, on fête la sortie de l'hiver et le début du printemps, et donc la sortie de l'hibernation de l'ours. Et l'idée, c'est qu'on fait référence à un mythe très ancien, qui est le mythe de Jean de l'Ours. Et Jean de l'Ours, c'est un être hybride mi-animal, mi-homme, qui serait né des amours d'un ours et d'une bergère. Et donc, ce Jean de l'Ours-là, il représente un peu notre lutte contre la part sauvage qu'on a tous en nous, et puis le triomphe de la civilisation.
Donc ça, Jean de l'Ours, c'est une très vieille légende, c'est ça ?
Oui, c'est une trêve du 15e, plus ancienne probablement que le 15e siècle.
Mais qui court dans d'autres villages ou seulement dans ce village de Saint-Laurent-de-Cerdan dans les Pyrénées?
On a plusieurs villages, donc avec plusieurs variantes. Il y a Arles-sur-Tech, donc Saint-Laurent-de-Cerdan, Prats-des-Molo-la-Preste. Et chaque village a son propre scénario. Par exemple, à Prats-des-Molo-la-Preste, je ne sais pas si je prononce bien, désolée pour les gens qui viennent de ce village, on sait qu'il y a, ce n'est pas un ours, mais trois ours qui ne portent pas des fourrures d'ours, mais des fourrures de moutons. Voilà, le mouton ours, quoi. Et ils mettent en scène des groupes de jeunes face à des groupes de plus anciens. Donc, c'est un peu le conflit de génération.
Alors, parmi les surprises du magazine Ça m'intéresse, saviez-vous que c'était la Vierge qui avait repoussé les troupes allemandes à Barcy dans la Marne en 1914?
Allons bon.
Légende ou vérité? On vous explique tout
les taxis
dans
Marne.
Un instant.
Mais non.
C'est possible aussi.
C'est plus compliqué
je pense que ça, c'est la version officielle.
Ah. Bravo. Nos villages ont leur curiosité, leur mystère, leur secret, et on vous les dévoile grâce au magazine Ça m'intéresse. Histoire, on est dans un petit village de Seine-et-Marne, on est au début de la guerre de 14 à Barcy, et là vous avez une histoire... Enfin, la version insolite d'une histoire qu'on connaît à nous raconter.
Oui, on nous cache tout, on nous dit rien.
Il y a peut-être une raison.
Ne soyons pas complotistes. En tout cas, elle est croustillante.
Oui, alors en septembre 14, les troupes allemandes avancent vers Paris et sont stoppées à une trentaine de kilomètres, notamment aux alentours du village de Barcy, en Seine-et-Marne. Et donc, la version officielle, bien sûr, dit que ce sont donc les renforts apportés notamment par les taxis de la Marne qui ont stoppé les Allemands. Sauf que là-bas, localement...
Donc ça, c'est la version officielle et vraie.
Exactement. Et vraie, oui. Plutôt
c'est l'histoire.
C'est l'histoire. C'est vrai.
Et maintenant, que dit la légende?
Donc, la légende dit que les Allemands terrifiés auraient été arrêtés par la Vierge. La Vierge.
Mais il y a des témoignages, enfin, elle les aurait arrêtés comment? Avec sa main, son manteau bleu.
Il y a des images.
C'est super.
Qu'est-ce qu'on a comme.
Super Marie.
Parce que souvent, quand même, quand on invente comme ça des légendes dans les villages ou ailleurs, on a toujours des preuves.
Oui, et là, ce qui est étonnant, c'est que ça date finalement de 100 ans, donc c'est une légende très, très récente. Et donc, on a notamment le témoignage de Madame Bongard, qui est la mère de l'épouse du maire de Barcy. Donc, qui était à l'époque infirmière bénévole sur le site et qui a recueilli, selon elle, des centaines de témoignages de blessés allemands qui ont dit que la Vierge est apparue et de sa main, elle a stoppé l'avancée des troupes et que donc, complètement terrorisés par cette apparition surnaturelle, les Allemands ont rebroussé chemin.
Est-ce qu'il y a une trace de ça aujourd'hui à Bercy?
Alors, c'est probablement juste du fantasme. En tout cas, la légende a si bien prospéré qu'on a édifié une statue de la Vierge concierge dans ce village, et ça marque l'avancée, le point le plus extrême de l'avancée allemande.
Et une inscription sous cette statue de la Vierge.
Tu n'iras pas plus loin.
Autre histoire,
le message était clair.
Toujours pendant, et ça c'est efficace, pendant la Première Guerre mondiale.
Après, ça a pris quelques années pour qu'ils repartent hein, quand même, mais bon.
C'est vrai.
Voilà, ils sont revenus, ils sont restés, ils sont installés.
Ils sont accrochés.
Voilà.
Alors toujours pendant la Première Guerre mondiale, on est en 1917, les sous-marins allemands torpillent les bateaux alliés. Que décide la Marine nationale pour contrer les Allemands ?
Alors, donc, ils vont décider de récupérer les dirigeables qui étaient auparavant utilisés dans l'armée, mais qui avaient été écartés du conflit puisqu'ils sont hautement inflammables. Et donc, ils vont décider d'utiliser ces ballons dirigeables pour faire des missions de... Ils vont repérer au-dessus de la Manche et de l'Atlantique les mines, ils vont repérer les sous-marins allemands et parfois lancer quelques bombes.
Là où c'est intéressant, c'est qu'il faut les entreposer, ces dirigeables.
Exactement.
Et l'un de ces dirigeables va être entreposé dans le hangar d'Ecosville. Qu'a-t-il de particulier ?
Alors, ça ressemble à une énorme cathédrale de fer avec plusieurs centaines de mètres de hauteur. Il y a plusieurs dirigeables qui étaient entreposés là. Alors, au départ, on va bâtir un hangar provisoire en bois. Et puis, à partir de 1917, on va fabriquer un hangar encore plus grand en béton et qui va abriter des dirigeables. Sauf qu'en fait, ce hangar-là ne va être terminé qu'en 1919, après la guerre. Donc finalement, il n'a pas beaucoup servi, mais reste aujourd'hui, dans la campagne normande, ce hangar phénoménal. Quoi.
Qui a servi à autre chose
Qui aujourd'hui sert à une association qui fait des activités pédagogiques autour des dirigeables, donc ça se visite. Et surtout, les fans de cet endroit souhaitent inscrire le hangar au Guinness Book des records en tant que plus grand hangar à dirigeables du monde.
Alors, vous publiez toutes ces histoires dans le magazine ça m'intéresse histoire 26 je crois
exact
énigmes. Est-ce qu'il y a un point commun sinon l'enracinement local et le fait que localement on y croit peut-être beaucoup plus que un peu partout ailleurs, c'est plus on s'éloigne.
Pas forcément, puisqu'on a certaines coutumes qui sont maintenant validées, en tout cas qui sont inscrites au patrimoine immatériel de l'UNESCO, donc qui ont une valeur universelle, puisque je pense aux géants de Cassel dans le Nord, dans ces manifestations de carnaval où on va sortir des géants, qu'on retrouve aussi bien de l'autre côté de la frontière en Belgique. Donc c'est vraiment, ça témoigne d'une culture vivace et puis ça, de rites très anciens. On a parlé des ours, alors ça c'est vraiment la culture locale. Mais en même temps, on peut retrouver aussi ce genre de choses en Espagne. Donc, effectivement, localement, ça a une importance parce que ça, c'est l'identité française dans toute sa splendeur.
Et c'est du lien social.
Exactement. Et puis aussi, ça a une valeur économique puisque ça nourrit le tourisme. Nous, on a voulu montrer que finalement, il y avait l'histoire dans les manuels et puis qu'on pouvait très bien, au détour d'un village,
tomber sur la petite histoire.
Exactement.
Alors, on va plonger maintenant au fond de l'Hérault. Qu'est-ce qu'on a trouvé dans ce fleuve en 1964 ?
Alors, en 1964, des plongeurs qui inspectaient le fond de l'Hérault vont tomber nez à nez sur une statue d'un éphèbe grec, grandeur nature, donc avec son joli déhanché, une statue en bronze, son drapé sur l'épaule, il a des bouclettes dans les cheveux, et il est tout à fait du plus pur style grec, du sculpteur grec Lysippe.
Et là, on
du
se dit, siècle. Qu'est-ce que ça fait dans l'Hérault, ce bel éphèbe ?
A priori,
il y a sans doute
perdu.
Plein de beaux hommes dans l'Hérault, ça c'est sûr, mais au fond de l'Hérault,
c'est un peu improbable. Surtout qu'il n'y a pas d'épave associée à cette statue. D'ailleurs, cette statue qu'on peut voir actuellement au Louvre, donc c'est vraiment une haute valeur artistique. Et donc, les regards vont tout de suite se tourner en 1964 vers le château de Belle-Île, qui est situé dans la ville d'Agde, et donc qui a appartenu au docteur Laurence, qui était donc 20 ans plus tôt, en pleine Seconde Guerre mondiale, collectionneur d'antiquités. Et donc, ce château-là va être réquisitionné par les nazis. Et donc les nazis vont eux aussi s'intéresser à la collection d'antiquités du docteur Laurence. Sauf qu'en 1944, ça sent la défaite. Donc en partant, ils vont balancer une partie des collections dans l'Hérault, tout simplement.
Et ça veut dire que ce...
Il y en a peut-être d'autres,
il n'y a pas juste le jeune éphèbe grec.
Il y en a sûrement d'autres, puisque depuis on en a retrouvé il y a une quinzaine d'années deux autres statues, et probablement, avis aux amateurs, encore une fois, qu'il y a d'autres choses au fond de l'Hérault.
Pour finir, une autre histoire, là on part en Bretagne, près de Saint-Guénolé. Vous allez nous raconter l'histoire du phare d'Ecmul. Qu'est-ce qu'il a de particulier ?
Alors, ce phare d'Eckmühl, il est très précieux. Puisqu'on sait que les murs de cet édifice sont recouverts d'opaline, le plafond est en marbre bleu, la porte est en acajou et la salle d'honneur est entièrement lambrissée en chêne. Donc, lambrissée en chêne. Donc, pour un phare, c'est un peu. C'est très riche, quoi.
Et c'est un endroit que vous avez visité,
c'est
pas Cyril ?
Oui, oui. Ouais. Alors, ils se visitent selon. Faut demander un peu, hein, avoir l'autorisation selon le temps, etc. Mais.
C'est quoi l'explication ?
L'explication, c'est que Eckmühl, ça n'a rien à voir avec Pinmar et la localité de Bretagne. C'est qu'en fait, ça fait référence à une bataille napoléonienne, face aux Autrichiens à Eckmühl en 1809. Et donc, en récompense de la vaillance d'un des soldats de Napoléon, l'empereur va faire du maréchal Davout, donc le fameux monsieur, il va le rendre prince d'Eckmühl, voilà, en référence à cette fameuse bataille. Et donc, quand ce prince d'Eckmühl meurt, sa fille va bâtir ce phare en sa mémoire. Elle va décider que tout sera précieux, parce que, alors dit-elle, elle veut que les larmes versées par la fatalité des guerres soient rachetées par les vies sauvées de la tempête.
Et voilà, le phare d'Eckmühl.
Histoire.
À découvrir et plein d'autres énigmes à découvrir. 26 énigmes des villages de France à retrouver dans le Ça m'intéresse Histoire, et c'est en partenariat avec RTL. Merci beaucoup, Cyrielle Lemoine-Tolba. À bientôt dans la curiosité.
Merci, Cyrielle. À bientôt.
Vous écoutez RTL.